Aujourd'hui, on va parler du growth hacking. Et j'ai vraiment une personne qui s'y connaît.
À cela, c'est Frédéric. Et Frédéric, finalement, il pourra vous en parler plus parce que lui, il a écrit même un livre et il est vraiment spécialisé là-dedans. Il a même un blog dans ce domaine-là. Alors, juste. Alors.
Je crois que tu
Salut Frédéric,
m'entends.
c'est bon.
Salut! Voilà.
Salut.
Les aléas du direct.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vas bien, Frédéric?
Ben oui, tranquille, tu vois, après un long week-end, on ne peut qu'aller bien. En plus, sous le soleil.
Ah bah, il y en a qui ont eu plus de la chance que d'autres, mais bah, c'est cool, c'est cool. Je
Voilà.
suis contente si tu as
Super.
pu, si tu as pu te ressourcer, parce que j'avoue
Ah
que c'est
oui.
important aussi. C'est important aussi.
Ah oui, non, c'était nickel.
Je voulais commencer par te remercier déjà d'être venu ici. Je sais que Instagram, c'est pas ta plateforme la plus privilégiée, mais merci beaucoup d'être venu ici. Je pense que les personnes qui vont regarder ce live auront énormément de choses d'intérêt. Donc, je te laisse te présenter rapidement de qui tu
Ouais, bien
es,
sûr.
de quoi tu parles, et après on go.
Alors donc je suis Frédéric Canevet, ça fait wow, 20 ans que je fais plus de 20 ans que je fais du marketing. Et donc ben je suis un petit peu un dinosaure, tu vois, c'est pour ça que sur les j'essaye d'être présent sur toutes les plateformes, même si c'est compliqué, de TikTok au blog. Et en fait, initialement, moi je viens du blog, puisqu'en fait j'ai fondé mon premier blog en 2006 qui s'appelle conseilmarketing.com et qui est donc un blog qui parle de marketing depuis des années et des années. Après, j'ai juste quand même une vingtaine ou une trentaine de sites internet de blog thématique. Et donc là, je me suis plutôt recentré, puisqu'en fait, il faut vraiment travailler sur une thématique précise, parce que si tu parles de tout, en fait, maintenant tu parles de rien. On est vraiment arrivé dans une ère d'hyper spécialisation. Et donc, ben, j'ai écrit plusieurs bouquins, et je participe aussi à plusieurs bouquins. Et donc, mes deux derniers bouquins sont Réussir son projet de chatbot et Callbot. D'ailleurs, j'ai dû mettre un petit chatbot sur Instagram pour des réponses automatiques. Et j'ai écrit également, coécrit le livre Le Growth Hacking, en est à sa deuxième édition. Donc, un livre en fait qui explique les techniques des startups de la Silicon Valley pour faire leur place sur le marché, et qui est bien sûr une technique qui est applicable par tout le monde, à la fois des freelances, des grandes entreprises, des PME, etc. Et le but, en fait, c'est d'aller pirater sa croissance.
Ah bah c'est bien que tu en parles de ça. Un livre, personnellement, quand j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas encore fini, mais je le trouve limite une bible parce que, en fait, ça s'adapte très bien à des marketeurs qui veulent approfondir ou se rappeler certains concepts. Et en même temps, il est écrit d'une manière plutôt claire, à mon sens, à moi, pour une personne qui potentiellement démarre finalement et ça laisse la place finalement à toutes
Bah,
les personnes
on l'a fait
qui le
comme ça en
comprennent.
fait. Ouais, en fait, quand on a coécrit le bouquin, c'était avec Grégoire Gambato qui a fondé Germinal, et puis avec d'autres amis à l'époque, et son entreprise. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est un petit bouquin simple qui revienne sur les fondamentaux. Et le truc, en fait, c'est qu'on n'a pas voulu tomber dans le gros hacking technique, puisqu'en fait, tu as beaucoup de gens en fait qui sont dans des choses très techniques, très compliquées. Nous, on s'est dit, voilà, si moi je devais débuter à nouveau sur le web, et si je devais lancer un produit, par quoi je commencerais? Et on reprend sur les fondamentaux, vérifier le product market fit, comme on dit, la conformité du produit face au marché. Est-ce qu'on est bien sur un vrai marché? Est-ce qu'il y a un marché solvable, etc. On teste son marché. Une fois qu'on a testé son marché, ben on passe à la deuxième semaine pour créer son identité, avoir ses premiers clients. Ensuite, on augmente sa zone d'influence avec des actions publicitaires. Ensuite, on va plus loin en recrutant ce qu'on appelle des réseaux de mercenaires, c'est-à-dire des affiliés, des influences, etc. Puis ensuite, on va plus loin, on va travailler sur l'expérience client et sur le revenu. Et en fait, comme ça, c'est entre guillemets un programme en 8 semaines. Alors, pour être tout à fait honnête, Le livre donc s'appelle Growth Hacking parce que c'est la thématique. Et ensuite, il y a
Ouais.
marqué doubler le nombre de prospects en 8 semaines. Et là, justement, pour ce truc-là, on a appliqué une technique de growth hacking entre guillemets, puisqu'en fait, on a recopié ce qui a été fait par Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. C'est-à-dire que pour trouver le meilleur titre qui allait bien, en fait, on a testé plusieurs versions. Parce qu'en fait, c'est moi qui étais sur cette partie-là. Mais qu'est-ce qui va bien marcher? Doubler le nombre de clients? Ah non, c'était trop. Doubler le nombre de prospects? Ah, ça paraît pas mal. La 8 ans en 8 semaines. Et en fait, on a fait juste un petit split testing avec une annonce Google Ads. Et c'est là, Google Ads, Facebook Ads. Et c'est là qu'on a vu que ce qui marchait le mieux, c'était doubler le nombre de prospects en 8 semaines parce que c'était réaliste. Parce que 8 semaines, ça fait pas encore trop. Et voilà. Donc, on est parti là-dessus. C'est vrai que souvent, moi, j'aime bien avoir des accroches qui aient bénéfice en une durée donnée. Par exemple, donc de growth
C'est
hacking,
très
doubler le nombre de
intéressant.
prospects en 8 semaines, ou alors tu as l'accroche qui est bloguer comme un pro, ou non, c'était 21 jours pour bloguer comme un pro, ou 8 semaines pour devenir plus efficace. En fait, quand tu as une accroche comme ça qui est assez simple, ça marche pas mal. Après, tu as d'autres techniques de copywriting où tu peux essayer de surprendre un petit peu les gens avec des thématiques, mais je trouve que le fait d'être resté comme ça sur une accroche très bénéfice et en une durée donnée, ça marche pas mal.
Notez les amis, notez. Prenez le stylo, le papier parce que ça renvoie. Alors, si on doit expliquer à un gamin de 5-10 ans qu'est-ce que c'est le growth hacking ou à ma mamie, comment tu l'expliquerais finalement?
Bah en fait, le growth hacking, je dirais que c'est plus une philosophie qu'autre chose. Et justement, si tu parles d'un gamin de 9 ans, ça me rappellera en fait mes époques à l'école. Et justement, je vais donner deux anecdotes. En fait, quand j'ai passé mon bac à l'époque, ça fait une dizaine d'années, une vingtaine, 30 ans, 30 ans de ça. En fait, j'ai appliqué sans le savoir une technique de growth hacking. C'est-à-dire que je passais mon bac de français et je m'étais payé une sale note à l'écrit. J'étais payé genre à 5 sur 20 parce que je suis très mauvais à l'écrit, en dictée, alors que pourtant je tiens un blog et j'écris 3 000 articles. Enfin bon, il y a des fautes partout, enfin moins maintenant, mais à l'époque, il y en avait beaucoup. Et donc, en fait, je
Ouais.
m'étais tapé vraiment une très très mauvaise note et moi, c'était l'oral pour me sauver. Et donc, je m'étais dit, waouh, Fred, faut que tu trouves un moyen de pouvoir avoir les bouquins que tu connais. Et donc, on avait un tas de bouquins énormes. Et donc, moi, je connaissais un bouquin que j'avais bien appris, que je connaissais bien, que j'aimais bien, qui s'appelle L'ami retrouvé de Fred Ullman. Alors, personne ne connaît ce bouquin-là, mais voilà, c'est un bouquin. Et en fait, je voulais que ça tombe sur celui-là. Donc, je suis allé en salle d'examen pour passer mon oral de français. Et j'ai fait exprès de le mettre sur la pile du dessus. Et quand je me suis approché du prof, je me suis approché en faisant exprès, sans que ça se rende compte, tac, j'ai fait glisser le bouquin, pim! Il est tombé sur le bureau du prof, qu'il a pris dans la main, qu'il a remis sur le tas. Et après, il m'a dit, bon, alors, allez, on va prendre comme sujet, allez, hop, Fred Ullman l'a mis retrouvé. Et bim, c'est comme ça que j'ai eu 18 sur 20 à l'oral de français, parce que j'avais hyper maîtrisé ce truc-là. Et donc, c'est ça une technique de growth hacking. Le growth hacking, en fait, c'est trouver des méthodes originales et astucieuses pour doper sa croissance. Et là, en fait, ben, je vais utiliser, sans le savoir, une méthode de growth hacking. Et ces histoires de growth hacking, en fait, c'est vraiment de se dire que tu as peu de moyens, tu as peu de ressources, tu as peu de temps, mais il faut vraiment aller à ce que moi j'appelle l'efficacité maximale. Et c'est pour ça, en fait, cette thématique m'a vraiment marqué, puisqu'à l'époque, en fait, c'était Duno qui m'avait contacté, qui m'avait dit, ouais, voilà, je voudrais que vous nous écriviez un bouquin sur le blogging. Et je disais, bon, un bouquin sur le blogging, il y en avait tellement qui avait été fait, je voyais pas trop ce que je pouvais apporter. Par contre, je leur dis, bah, il y a une technique qui m'intéresse pas mal, et c'est vrai que c'est un mot qui commence à monter, et moi, ça résonne en moi. C'est vraiment cet aspect growth hacking, c'est-à-dire avoir des trucs, astuces, des méthodes pour aller doper sa croissance, et c'est tout à fait ma philosophie, et moi, je vous propose d'écrire ce bouquin-là. Et c'est vrai que ça commençait un petit peu à émerger aux États-Unis, et c'est là, bim, on est allé donc sur cette partie growth hacking, et donc on a écrit le bouquin. Et pour la petite histoire, tu vois, là aussi, c'était un peu du growth hacking, entre guillemets. Là, par contre, toi, je ne me suis pas du tout inspiré de ce qui était fait. On essayait de faire un bouquin qui était vraiment totalement différent de ce qu'il y avait sur le marché. Parce qu'il y a de très bons bouquins, Chanelis, etc., qui ont écrit des très bons livres et qui sont complémentaires aux bouquins qu'on a fait. Et donc, en fait, donc on a fait cette histoire de titre. On a commencé par le titre au départ et ensuite on a créé les contenus. Et donc, au début, moi, je me disais, Fred, t'arriveras jamais à écrire un bouquin tout seul. Et c'est ça en fait que je fais tout le temps sur que ce soit des formations vidéo, des produits, des projets. Je sais très bien que c'est compliqué de se débrouiller tout seul pour faire quelque chose. Et donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je me dis, J'y arriverai pas, mais je vais demander à quatre personnes de venir. Et donc, en fait, je vais demander à quatre amis de venir, voilà, vous êtes expert dans tel domaine, on va faire quelque chose ensemble. Donc, sur les quatre personnes, il y en a un qui m'a dit non tout de suite, l'autre qui m'a dit, ouais, je vais le faire, et puis au bout de 2 mois, il m'a dit, non, mais j'aurai pas le temps. Le troisième qui m'a dit, ouais, je vais te remettre le chapitre, il me l'a remis une semaine avant, et j'ai dû réécrire la moitié. Et le dernier qui m'a dit, ah non, non, moi, je suis pas dispo, mais par contre, je connais un gars qui s'appelle Grégoire et qui est à Grenoble. Et si tu veux, il peut écrire le bouquin avec toi. Et donc, Grégoire, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. On ne s'est jamais eu au téléphone, on ne s'est jamais appelé. On a tout échangé par mail et on a fait ça sur un Google Docs. Et finalement, on a écrit le bouquin et je crois qu'on s'est vu genre quelques semaines ou quelques mois après la sortie du bouquin. Voilà.
Incroyable,
Donc,
incroyable.
l'important, c'était de faire un plan détaillé.
Ouais. Et là, tu parlais justement d'être astucieux, de trouver des astuces originales. Donc, le growth hacking, la manière dont je le comprends, voilà, c'est trouver une astuce créative qui n'a pas été utilisée, qui va servir finalement à la croissance. Et je pense que c'est ça qu'ils recherchent le plus souvent, surtout un business qui vient de
Ouais.
se lancer. On a besoin de
Alors
pousser,
ouais.
on a besoin de croître. Et pour toi,
Exactement.
quel est vraiment, quelle est
La
l'astuce
philosophie, la définition.
numéro un finalement que tu utiliserais si tu as un business et tu te lances aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais en première chose?
Alors, en fait, je dirais déjà, il faut faire attention, parce que justement, le growth hacking a souvent, en fait, cette odeur sulfureuse de dire le growth hacking, c'est juste des hacks, c'est juste des astuces, et c'est grâce aux astuces en fait que tu vas pouvoir décoller. Sauf qu'en fait, vraiment, dans le growth hacking, il y a deux mots. Il y a growth et hacking. Et souvent, en fait, on retient souvent le mot hacking qui est je vais pirater ma croissance, c'est-à-dire que je vais tout simplement aller chercher l'astuce qui va faire décoller. Et en fait, c'est vrai que ça fait un petit peu rêver parce que c'est un petit peu une baguette magique. Airbnb, tu vois, tout le monde se dit Airbnb, ils ont réussi parce que ils ont fait des belles photos, etc. Non, il faut savoir qu'au départ, ils sont allés sur Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin. Ils avaient un petit robot qui allait poster un message à toutes les personnes qui déposaient une annonce de location en disant, hey, tu sais que si tu allais sur Airbnb, tu pourrais faire jusqu'à 500 $ par mois. Pareil, tu as aussi Xavier Niel qui a débuté il y a des dizaines d'années. Au début, Xavier Niel, le fondateur de Free, il n'est peut-être pas très connu, mais il commençait dans le Minitel Rose. Donc, le Minitel Rose, je ne sais pas si tu t'as déjà entendu parler, mais le Minitel Rose, c'était vraiment les messageries un peu olé-olé. Et lui, il avait inventé un truc qui s'appelait le turbophone. Et avec le turbophone, il allait sur le 3615 UA, qui était vraiment la messagerie rose la plus connue, et il disait, hey, viens plutôt sur ma messagerie, ta 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 ta, on va se retrouver, on va discuter. Et ça raccrochait. Ça se faisait passer pour une femme. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé sa fortune. Donc, c'est ça les petits hacks qui font rêver. C'est comme aussi le PS I love you, qui était en dessous, en fait, des premiers messageries sur Hotmail, qui a attiré un petit peu les gens. Mais sauf que ça, en fait, c'est vraiment ces hacks-là. Ça marche peut-être pour faire des coups, ça marche peut-être pour voilà, acquérir ses premiers prospects, mais ce n'est pas forcément ce qui va te faire fonctionner dans la durée. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas trouver une baguette magique. Et c'est ça la seconde partie du growth hacking, c'est la méthode AR. C'est-à-dire qu'on va analyser son business avec une analyse cartésienne. Et moi, en fait, je le fais assez régulièrement. C'est-à-dire que sur mon site internet, j'analyse les sources de trafic, j'analyse la conversion, j'analyse les revenus, j'analyse la recommandation éventuellement et donc mes revenus finaux. Et en fait, ça me permet d'avoir une vision externe parce qu'en fait, parfois, on fait des choses par habitude. Et surtout sur le blog, tu vois, on continue à produire du contenu, mais en fait, tu te rends compte que ça donne pas plus que ça, c'est toujours un petit peu moyen. Et donc, cette fameuse analyse AR avec le cycle de vente te permet de dire où tu dois agir en priorité. Et c'est vrai que moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc, si j'étais créateur d'entreprise, freelance, qui devait me lancer, je commencerai par ça. Je commencerai à mettre en place des indicateurs clés qui permettront de voir en fait quelle est ma conversion et quelles sont mes performances en fait sur mon site web. Et avant d'aller chercher énormément de trafic, ben, je commençais déjà, bon bien sûr, par tester mon offre, etc., comme je te l'expliquais tout à l'heure, mais je verrai aussi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas pour pouvoir améliorer les choses. Donc une fois que j'ai fait ça, bien sûr, mettre en place ces petits indicateurs, c'est simple, mais je dirais qu'il n'y a pas une seule recette en fait pour réussir comme ça, parce que le truc, c'est que si tu mises tout, par exemple, sur une plateforme ou un canal de communication, tu peux être tu vas pas avoir accès à la totalité du marché. Par exemple, là, tu vois, moi, je travaille dans le B2B, dans les logiciels de gestion de la relation client. Et en fait, on voit bien que si tu mets tout sur le content marketing, ce qu'on faisait à un moment donné, eh ben, en fait, tu arrives qu'à capter une partie. On faisait beaucoup de contenu et on faisait beaucoup de salons, de networking, etc. Sauf qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient des budgets AdWords que nous, en fait, on n'utilisait pas. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, on se disait, maintenant, on est présent sur les salons, on a un bon contenu, on est quand même bien référencé, ça devrait aller. Sauf qu'en fait, dans mon domaine qui est le B2B, les gens travaillent beaucoup en mode shortlist. C'est-à-dire que s'ils te sélectionnent, ils te sélectionnent uniquement s'ils te voient dans la liste des marques incontournables. Et c'est en cela que, normalement, il faut quand même avoir un bon mix enfin, équilibré entre donc du content marketing. Et ça, en fait, c'est vraiment important quand on est petit parce que justement, une grande entreprise, une marque va avoir des cycles de décision qui vont être longs pour valider des articles, des experts, etc. Ils ne vont pas faire des lives comme toi parce qu'ils vont se dire, ah non, mais un live, il faut qu'on envoie un emailing. Je sais que nous, quand on fait des webinaires, tu as 3 semaines entre le moment où tu envoies un truc, tu envoies un emailing, un deuxième emailing, etc., etc. Et voilà, c'est validé, machin. Donc là, un indépendant, il peut faire du contenu, surtout il peut mettre de sa patte, il peut mettre son émotion, il peut mettre des cas particuliers. Et c'est ça, en fait, que tu vas pouvoir mieux déclencher parce que cet effet de levier avec le contenu et la personnalité que tu vas faire va te permettre d'aller mettre des coups de pied aux fesses, en fait, aux grandes marques parce qu'ils n'ont pas cette agilité-là. Et donc, ça, c'est super important. Et la méthode AR, qui est de travailler en sprint de 3 semaines, ben, permet justement d'être beaucoup plus rapide, de tester, tester, tester des choses, alors que les grandes entreprises n'oseront jamais, jamais le faire. Moi, je le vois, tu vois, j'étais il n'y a pas très longtemps à organiser un partenariat avec une entreprise, et puis on se dit, ouais, ben voilà, il n'y a pas de souci, moi, je te monte un blog, je te fais un truc, et puis on va commencer. Et puis là, je dis, attends, faut qu'on fasse un comité de direction, machin, faut qu'on valide. Bon, ok, 3 semaines plus tard, on n'y est toujours pas. Donc, l'agilité, création de contenu, je pense que c'est important pour une marque au début de se faire connaître. Si en plus elle arrive, comment dire, à surfer un petit peu sur une expertise, faire des contenus originaux, mettre de l'émotion, elle arrivera à sortir du lot. Deuxième chose, quand tu es une marque qui croit un peu, ben, faut aussi utiliser des canaux un peu classiques de publicité. Et troisième chose, et après tu en auras d'autres, je pourrais te parler le physique, le networking, mais les techniques de growth hacking. Les techniques de growth hacking, justement, te permettront d'aller plus vite que les autres. Un exemple, moi, tu vois, comme je suis en B2B dans les logiciels professionnels qui sont comme s'adressent à des entreprises un petit peu de grande taille, et ben en fait, le growth hacking permet d'aller exploiter des canaux qui sont sous-exploités. Je te donnerai 3 exemples. Un exemple simple. Tu vois, il y a à peu près 2 ans de ça, j'étais en train de discuter avec un pote et qui me disait, waouh, putain, Pinterest, ça cartonne, ça fait 10% du trafic de mon site. Je dis, ah quoi, Pinterest, 10% de trafic de ton site, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ouais, je suis dans l'e-commerce, machin, tout ça. Je dis, oh là là, attends, il y a peut-être un business à faire là, attends. Et je me dis, bon, allez, hop, Fred, tu vois, c'est donc les 4 étapes du growth hacking, c'est identifier une opportunité de croissance, qui peut être l'amélioration de la conversion ou un gisement de croissance inexploité. Ensuite, tu vas dire comment tu vas pouvoir l'exploiter. Ensuite, tu vas faire une première phase où tu vas faire un peu tout du manuel et ensuite tu vas essayer d'automatiser les choses. Donc première phase, hey, tiens, Pinterest, ça peut être sympa. Deuxième chose, ben, je me dis, comment tu vas pouvoir exploiter ça? Fred, Pinterest, c'est des images, souvent des images de produits, comment tu vas faire? Et je me dis, hey, attends, j'ai mon blog avec des dizaines de milliers d'images ou des centaines de milliers d'images qui sont à moi, une partie qui sont pas à moi. Eh ben, c'est simplement, je vais en prendre. Hop, j'étais sur mon blog WordPress, j'ai téléchargé les images, je les ai mises sur mon disque dur. Celles qui étaient à moi, je les ai supprimées, enfin, gardées, et celles qui n'étaient pas à moi, en fait, je les ai enlevées. Tout ce qui est infographie, tout ça, ça passe, etc. J'ai commencé à faire une petite phase manuelle, tac, 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 et puis je vois, ah oh ouais, c'est simple, machin, peu de visibilité, mais pas plus que ça. Je me dis, bon, allez, maintenant, Fred, ce que tu vas faire, c'est que tu vas automatiser. Et donc, j'ai tapé Pinterest Growth Hacking Tool, et là, j'ai trouvé un petit outil qui est de ta 100 balles, qui s'appelle Ninja Pinner, que j'utilise encore, que j'avais utilisé pas longtemps. Et j'ai pris Ninja Pinner et bim, j'ai pris tous les photos. Alors, avant, j'ai demandé à mon assistante, parce que ça aussi, c'est le growth hacking. Le growth hacking, c'est pas utiliser que des logiciels, c'est utiliser les ressources à sa disposition. Et donc, ça fait 4-5 ans que j'ai une assistante offshore à Madagascar qui s'appelle Sabrina, que je paye à peu près 6 € de l'heure. Et donc, je lui ai fait un tuto, je dis vidéo, je dis Sabrina, alors tu vas aller sur le logiciel, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Avant, tu vas sélectionner les photos qui sont pas moi, tu les vires, tu vas garder uniquement celles que j'ai le droit parce que après tu peux te faire choper et tu vas mettre à chaque fois un article qui correspond au répertoire parce qu'en fait moi j'ai pris la bonne idée de tout ranger par répertoire les images et je dis voilà tu fais ça. Et là, en fait, je lui dis, voilà, fais le logiciel, lance-le. Et elle y a passé, je crois, une après-midi. Alors, je vais aller regarder un petit peu les résultats sur Pinterest la dernière fois. Mais en fait, Pinterest, je crois que je dois faire 200 000 ou 800 000 vues sur Pinterest. Alors, ça n'amène pas un trafic de folie parce que souvent, les gens, ils restent sur Pinterest. C'est aussi un petit peu chaud parfois au niveau du référencement parce que parfois, Pinterest monte devant toi. Mais bon, voilà. Donc là, je ne peux pas te faire une capture écran. Mais aujourd'hui, là, en monthly view, je suis à peu près à 800 000 monthly view et 8 000 followers. Et ça continue d'augmenter et j'ai voilà, des contenus sur différentes thématiques. Donc voilà, premier exemple, gisement de prospects exploités, comment je peux le faire. Ensuite, petit essai et ensuite automatisation.
Et
Deuxième chose, ouais.
dans ton livre, tu as dit une chose qui me semble vraiment super intéressante, malgré le fait que c'est assez évident, hein, mais parfois, les choses qui sont les plus évidentes, c'est celles qu'on voit le moins. C'est le fait de ne pas établir 10 000 KPI, d'établir un seul KPI et de mettre les actions qui vont avec. Donc, ça veut dire, par exemple, je veux de visibilité, je veux tel numéro, je veux à telle date. Quelles sont les actions que je veux mettre en place pour avoir cette visibilité, si on veut appliquer finalement ça à un réseau social?
C'est
Et
vrai,
pareil
c'est
pour
vrai.
la vente. Donc, on va par étapes. Initialement, je me lance, j'ai zéro follower, j'ai zéro prospect. Donc, la première chose, finalement, c'est l'acquisition. Donc, au lieu de me dire, ah, bah, je veux de la visibilité, je veux des clients, je veux de prospects, je veux ci, je veux ça, focus sur
Focus.
un premier objectif au début. Et après, une fois qu'on a atteint le premier objectif, on passe au deuxième et au troisième, et comme ça, de enfin, boucle en boucle,
Exactement.
finalement. Et ça m'a semblé
C'est
vraiment
ce que
super
j'appelle
intéressant.
la North Star métrique ou l'étoile du Nord.
Ouais, parce
Ça,
que
c'est.
même en tant que marketeur, excuse-moi, même en tant que marketeur, parfois, on a cette habitude de s'emballer un petit peu. On va dire, bah, je veux augmenter ma visibilité, je veux tel client, je veux tel prospect, etc. Et les clients, j'en parle même pas parce que eux, ils veulent toujours tout. Donc, c'est quelque chose qui m'a semblé vraiment super intéressant quand je l'ai lu. Et je me dis, bah, si j'ai l'opportunité de le partager aussi ici, comme ça les gens ils le savent.
Ah oui,
Et
ouais.
ouais, c'est vraiment
Bah, la North Star
top.
métrique, c'est super important. En fait, je m'en suis rendu compte au bout de quelques années, parce qu'en fait, moi, sur mon. Toi, comme je dis, je suis vraiment issu du old school avec le blog. Et donc, en fait, souvent, en fait, j'étais comme ça. Je regardais mes stats de blog tous les jours. Alors, il ne faut plus le faire maintenant, je ne regarde plus tous les jours, mais à l'époque, je regardais. Puis je voyais mon trafic, je disais, oh là là, mon trafic est en baisse, vite, il faut que je fasse des articles. Puis après, je voyais, ah, j'ai pas suffisamment de prospects actifs dans la journée, ah, il faut que je fasse un nouveau contenu. Et puis après, je voyais mon chiffre d'affaires, ah là là, mon chiffre d'affaires va pas, il faut que je fasse un emailing. Et en fait, tu vois, j'étais un petit peu à passer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors, ça allait toujours un petit peu dans le même sens, parce que plus tu as de trafic, bah, plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu as de prospects, bah, plus tu fais de chiffre d'affaires aussi, mais en fait, j'avais pas en fait ce filtre, et c'est ça qui est important parce que parfois dans les boîtes, on est un petit peu sursollicité avec des options. Parfois, tu vois, moi ça m'arrive souvent, je vois une super vidéo de toi, j'aime bien tous les risques que tu fais, ça fait quoi ça,
Merci.
ça me fait rire, je like et tout ça, et donc je me dis, ah tiens, j'aimerais bien faire un reel, j'aimerais bien faire, mais je me dis, Fred, est-ce que ce que tu vas faire là va contribuer à ta North Star métrique? Est-ce que ça va te permettre de faire plus de chiffre d'affaires? Et ça m'a appris à dire non. Parce que parfois, en fait, on a du mal à dire non. Comme tu as dit, avec un client qui te dit, tiens, j'aimerais bien faire ci, regardez mon concurrent, il a fait ça. Ah, tu dis, bah ouais, on peut le faire, mais bon, voilà. Et puis après, tu dis, mais attendez, si tu dis, votre objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, là, ce qu'on va faire, on va faire de la visibilité, ça va pas forcément faire du business. Et parfois, c'est compliqué. Moi, je vois, par exemple, sur LinkedIn ou Instagram ou en autre, et je l'ai même vu pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu un de mes contacts qui a fait un très beau slider sur, en fait, Pâques. Et c'était pourquoi Pâques, d'où ça vient, machin et tout ça. Alors, ça fait des dizaines et dizaines de likes, ça fait des commentaires, mais je me dis, OK, combien ça génère de business? Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un d'Eddie Leeds, hein, Anthony, et en fait, il me disait, ouais, moi, j'ai eu des posts à plusieurs dizaines de milliers de vues, voire centaines de milliers de vues, mais ça générait quasiment aucun clic. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai constaté. J'avais fait un post comme ça. D'ailleurs, moi, en tant qu'ancien blogueur, j'ai eu du mal à passer il y a 4-5 ans du mode blogueur où tu fais du top-down, c'est-à-dire que tu publies un contenu, tu dis, hé, regardez, je viens de sortir un article là-dessus, à la philosophie réseaux sociaux où tu dois engager la conversation. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de ça, quand j'aurais publié sur LinkedIn ou sur Instagram ou peu importe du contenu, j'aurais dit, voici mon top 10 des meilleurs logiciels pour ceci, cela. Maintenant, quand je publie un contenu, je dis, non, Fred, te mets pas en mode pédagogue, mets-toi en disant, j'ai dû mettre un truc sur le CRM, c'est qu'est-ce que vous pensez de Salesforce? Est-ce que c'est le meilleur CRM ou pas? Ou un truc comme ça. Ou quel est selon vous le meilleur CRM? Et j'ai mis une liste de CRM. Et c'est là que tu as commencé à avoir de l'interaction. C'est là que tu as commencé à avoir des gens. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est trouver de l'interaction. On n'est pas là pour pousser son savoir. On n'est pas par là pour montrer sa science. Mais on est véritablement là pour faire en sorte que les clients, enfin les clients, les prospects interagissent. Et cette course à la vue, bon, voilà, on fera de la visibilité. Mais le problème derrière, c'est que cet article-là qui avait dû faire ce post en fait hein, sur LinkedIn, qui avait dû faire 70 000 vues, en fait, j'avais calculé derrière parce que le gros hacking, c'est ça, hein, c'est se dire, ok, j'ai fait des vues, mais combien ça m'a rapporté de prospects? Ça m'a rapporté quelques dizaines de visites, etc., etc. Et après, je me suis dit, non, Fred, en fait, ce que tu as fait, c'est bien, mais ça génère pas. Et là, quand je vois le contact que je connais qui a fait ce post sur les autres packs, je me dis, c'est de la vue, mais ça génère combien? Par contre, ça m'est arrivé de faire des tout petits trucs. Par exemple, j'utilise un petit outil qui s'appelle Lumen 5, qui permet en fait de créer une mini vidéo, une animation à partir en fait d'un article de blog ou même en solo. Et avec Lumen 5, en fait, ça coûte aller 100 balles à l'année ou quelque chose comme ça. Et bien en fait, j'ai fait une petite vidéo qui était comment réussir son cahier des charges pour un CRM. Et tout de suite, en postant cette vidéo qui a eu quelques dizaines de likes, à peine, très, très peu de choses, et bien en fait, tout de suite, ça générait des prospects, et tout de suite, ça générait des ventes. Donc en fait, il faut vraiment se dire avec sa North Star métrique, mais est-ce que ça va vraiment me rapporter du business? C'est ça qui est important. Et donc, voilà, pour revenir à ta question initiale qui était, si je me lance, donc moi, je commencerai bien sûr par créer du contenu parce que si on est à l'aise et si on a des choses à dire, c'est intéressant. Et puis, ça permet d'avoir de la visibilité et d'établir une visibilité, une notoriété d'expert. Et pour cela, j'irai surtout donc créer mon propre contenu, mais aussi chercher de la visibilité ailleurs. Comme tu le fais là, c'est super important en fait d'aller prendre la visibilité où elle est. Et par exemple, les interviews d'experts, c'est super intéressant pour gagner en visibilité, en notoriété. Je te donne mon exemple. Il y a 5 ans, en fait, donc j'ai intégré un éditeur logiciel qui s'appelle Eloquent et qui vend des solutions de centre de contact et d'enquête de SAT. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je venais du CRM, donc qui était plutôt commercial. Et donc, j'étais pas connu. Voilà, j'avais mon blog, mais bon, voilà, sans plus que ça. Et en fait, au bout d'un an, ben, j'ai lancé quelques offres sur le domaine des chatbots et tout ça, blablabla. Puis après, on s'est élargi sur le domaine de l'expérience client. Et pour me dire, Fred, il faut vraiment que tu gagnes en visibilité et que vous soyez un expert reconnu. Et c'est vrai que là, maintenant, quand il y a j'ai fait un salon, le salon stratégie client et marketing, il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, qui disent, ah, Frédéric, c'est marrant de se voir en vrai. Tiens, on se fait un selfie. Ah, j'adore ce que vous faites comme publication, etc. Donc, bien sûr, on a créé du contenu, mais on allait chercher la visibilité ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé un système qui est très simple, qui est l'interview écrite d'influenceurs. Là, tu vois, on fait un live ensemble, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc., etc. Moi, je voulais faire que ce soit beaucoup plus simple et que ce soit pas trop chronophage. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie 5 questions par email à des influenceurs dans mon domaine. Et souvent, d'ailleurs, c'est des consultants, des gens qui cherchent un boulot, etc. Et je leur dis, bah, tiens, voilà, je fais des interviews d'experts dans le domaine de l'expérience client, la relation client. Est-ce que ça vous dirait de participer? Vous pourriez parler de tel sujet. Et je regarde, bien sûr, leur bio sur LinkedIn. Et en fait, bon, à peu près, il y a allez, 25% des gens qui acceptent de l'interview. Mais bon, peu importe, ça, c'est donner juste la stat. Et donc, en fait, ce que tu fais, tu les interroges, tu envoies les questions, c'est eux qui créent le contenu gratuitement. Ensuite, tu les tags sur les différents réseaux sociaux et ils partagent, ils likent et tout ça. Et donc, en fait, ça te permet d'avoir un peu cette expérience, d'être bien positionné sur des mots-clés, de gagner cette visibilité sur certains domaines d'activité. Et ce système d'interview, content marketing, vient tout à fait en complément de tes contenus propres à toi que tu peux créer. Donc, voilà. Donc ça, c'était content. Et ensuite, je mettrai moi gros hacking, puisqu'en fait, bah, comme on l'a vu il y a 2 secondes, tu peux utiliser d'autres techniques. Là, un exemple aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn, en fait, beaucoup de gens, bah, comme on l'a dit précédemment, sur les vanity metrics avec tu fais combien de vues? Tu fais combien de vues, machin, etc. Et comme d'habitude, moi, je dis non, c'est pas ma méthodo, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, le reach, bah, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile à obtenir sur LinkedIn. Autant, tu pouvais faire des posts avec plusieurs milliers de vues, dizaines de milliers de vues, il n'y a pas très longtemps. En plus, on utilisait les techniques de gros hacking. À un moment donné, tu vois, l'algo de LinkedIn était vraiment mauvais. C'est-à-dire que il y avait ce qu'on appelait les pods automatiques. C'est-à-dire que tu avais des logiciels où tu pouvais mettre un lien et tu payais 10 balles par mois et tu avais des dizaines de likes et tout de suite, ta publication, elle explosait. Ensuite, LinkedIn a dit stop, c'est des blagues. Donc après, moi, j'ai arrêté. Et ensuite, hop, on est passé au pod manuel. Le pod manuel, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe WhatsApp, en fait, où tu postes, en fait, tes publications et tu as des amis qui sont aussi influenceurs dans ta thématique, etc. et qui likent et qui commentent. Et ça, en fait, ça marchait encore très bien il y a, on va dire, 6 mois de ça. Maintenant, ça a vraiment baissé en visibilité. Et maintenant, on est plus sur de l'engagement naturel ou des choses où tu vas vraiment beaucoup plus travailler ton copywriting. Et tout ça pour te dire que justement, le hack, c'est bien, mais il faut vraiment avoir sa stratégie sur le long terme. Un hack te permet d'avoir un coup, mais après, derrière, si tu n'as pas vraiment fédéré une communauté, si tu n'as pas réfléchi à ta stratégie à long terme et tes canaux d'acquisition et ta transformation, on parlait tout à l'heure, avoir des vues, c'est bien, mais si derrière, tu ne les incites pas à aller à tel endroit, à liker, à commenter et surtout récupérer tes coordonnées. Il n'y a pas très longtemps, j'ai encore eu l'exemple, justement, on garde notre pod WhatsApp avec mes collègues et mes contacts, parce qu'en fait, mon pod WhatsApp, c'est plus qu'un pod de partage. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, il y a des gens qui me posent des questions, c'est voilà, des fois, il y a des gens qui me disent, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette solution d'emailing? Et il n'y a pas longtemps, justement, j'ai un contact qui m'a dit, ah, j'ai un petit peu trop abusé de l'outil LinkedIn Helper, qui est un petit outil de growth hacking, et ah, il s'est fait arrêter son, mais pas juste arrêter son compte 3 jours comme d'habitude, il s'est pris 3 semaines, un mois d'arrêt. Ça, c'est un petit peu dur. Et donc là, il me disait, Fred, comment je peux faire, etc. Je dis, bah, tiens, LinkedIn, ils ont une adresse email où tu peux envoyer un truc qui est un peu caché, mais tu peux l'avoir là-dessus, etc. Donc en fait, il faut un peu faire gaffe aussi, les techniques de growth hacking, c'est comme, c'est surfer avec la ligne blanche. Et donc, il faut pas abuser. Mais donc voilà, pour revenir à cette idée-là, c'est que avoir des vues sur LinkedIn, c'est bien, mais ton profil, il peut se faire shooter à n'importe quel moment, etc. Donc moi, ce que je recommande, c'est pas aller chercher les vanity metrics, mais véritablement d'aller créer du lien. Et donc moi, ma technique, elle est simple, c'est sur LinkedIn, si tu commences par un premier message pour créer une communauté. Alors, tu es limité à 100 invitations par semaine. Tu vas me dire, ah, oh, 100 par semaine, je vais jamais y arriver. Il y a 52 semaines dans l'année, ça fait 5 200 contacts dans le meilleur des cas, mais je suis en vacances, etc. Donc à ce moment-là, pareil, gros, faut que tu aies ton growth hacking mindset et tu dis, comment je peux contourner ce truc de merde? Et là, tu dis, hey, j'ai oublié un truc. Il y a les groupes LinkedIn. Dans les groupes LinkedIn, en fait, tu peux envoyer des messages à tous les gens qui font partie du groupe. Et donc, hop, tu dis, hey, bah, c'est très simple. Je vais utiliser LinkedIn Helper et puis je vais envoyer des messages aux membres du groupe pour devenir contact ou les inviter à un webinaire ou les inviter à passer sur un salon, etc. Troisième chose, tu peux également utiliser les adresses email personnelles des gens pour les inviter sur LinkedIn. Donc, si tu as une newsletter pro, perso, etc., tu peux envoyer aussi un fichier Excel et bim, en fait, ça va te proposer d'envoyer des invitations. Donc, tu vois, il y a des moyens comme ça d'aller essayer de détourner l'algo. Mais encore une fois, c'est des trucs qui permettent d'amorcer les choses. Ça te permet en fait d'aller un petit peu donner un petit coup de booster, mais dans la durée, il faut vraiment travailler sa stratégie. Et justement, la deuxième phase, l'AR, avec l'analyse de son cycle des ventes, ça te permet de savoir où agir en priorité. Voilà.
Et là, je voulais en revenir justement, pour dire à tout le monde de ne pas s'emballer beaucoup parce qu'ici sur Instagram, ça ne fonctionne pas les
Ah oui, alors sur Instagram, moi je l'ai fait au départ. Alors pour être tout à fait honnête, si tu regardes mon profil Insta, je dois avoir, je sais pas, 7 000, 8 000 followers. Et en fait, j'ai utilisé justement des outils de growth hacking pour faire grandir la communauté. Follow, unfollow, bla 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 bla. Et malheureusement, ça marche pas du tout parce que les gens ne sont pas engagés. Et en fait, ça ne sert à rien. Au contraire, je trouve que c'est plutôt se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, tu acquiers des gens, plus des followers de mauvaise qualité qui like pas, qui ne sont pas dans ta thématique, etc. etc. Donc en fait, c'est une mauvaise stratégie de faire ça. Puis en plus, tu fais ban. Enfin, tu fais bannir régulièrement d'Instagram. Donc c'est plus utile. C'est comme sur Facebook, tu ne peux quasiment plus rien optimiser et tu dois en fait faire du naturel. Après, en fait, tu as aussi la possibilité de faire du naturel semi-automatisé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser, par exemple, ton assistante à distance. Moi, par exemple, justement, avec Sabrina, je donne plusieurs missions. Donc, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus permissif, donc tu peux faire pas mal de choses. Mais tu peux aussi également, mon assistante qui est Amada, je lui dis, bah, tiens, tu vas sur mon compte et je fais du semi-automatisation. C'est-à-dire que j'envoie un message d'invitation en automatique avec LinkedIn Helper. Et après, derrière, je dis, Sabrina, c'est toi après qui réponds à toutes les personnes qui n'ont pas répondu avec un message. Dès qu'ils m'ont fait rien que merci, coucou, etc. C'est moi qui réponds, mais dès que c'est que la personne fait juste accepter le premier message, c'est elle qui vient et en fait je lui donne un message copier-coller, elle met le prénom, elle met le nom de la société, chose qui est extrêmement dur à faire. Sur LinkedIn, tu ne peux pas mettre le nom de la société parce qu'en fait, c'est souvent pas mis dans le titre, etc. Il faut vraiment le voir. Donc, elle met le nom de la société en clair et ensuite, elle rajoute trois images. Alors, c'est possible maintenant de le faire avec des outils de cross-hacking, mais auparavant, ce n'était pas possible de le faire. Et donc, en fait, tac, elle fait ça et ça permet d'avoir un taux d'acceptation qui est beaucoup plus important. Je connais même des personnes qui font la même chose avec des messages vocaux et qui peuvent en fait dire, quand tu fais une invite, derrière, tu envoies un message vocal disant bonjour, bah merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa, bah si vous voulez échanger là-dessus, blablabla. Et donc, en fait, un message vocal, là aussi, ça ne fait pas automatiser. Ça fait pas vraiment voilà, un truc qui est fait dit, redit. Et ça peut être intéressant. Alors, le truc, c'est que la voix n'est pas forcément la même, etc., etc. Mais tu peux faire des choses. Et c'est ça, en fait, la philosophie du growth hacker, c'est que tu vas tester des choses. Tu vas voir si ça marche. Et si ça marche, tu continues, tu essaies d'optimiser. Si ça marche plus, en fait, bien sûr, tu arrêtes et tu fais gaffe à pas dépasser les bornes. Mais en tout cas, sur Insta, les techniques de growth hacking, c'est devenu très compliqué. Il y a pas très longtemps, j'ai encore fait quelques tests quand même. J'ai utilisé un petit outil qui s'appelle Phantom Buster. Et en fait, dans ces cas-là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai été sur les publications de mes concurrents et j'ai listé en fait des personnes qui avaient une interaction régulière, c'est-à-dire que les gens qui commentaient. C'est-à-dire pas juste les gens, les followers d'un compte, mais vraiment les gens qui commentaient, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment engagés. Parce que ces gens-là, s'ils sont engagés avec les publications des autres, c'est qu'ils sont actifs sur le truc. Et j'ai fait comme ça quelques petits tests, mais en fait c'était un petit peu long parce qu'avec les contraintes d'Instagram, c'est une vingtaine d'ajouts, de choses comme ça que tu peux faire par jour. Donc est-ce que ça vaut le coup de le faire? Pff, je ne sais pas. Et puis j'ai pas eu ça n'a pas été foudroyant en termes de likes, de machin. Donc voilà, pour moi, le growth hacking sur Insta, c'est pas forcément encore une fois, faut essayer de réfléchir. Faut réfléchir et se dire comment je peux faire ça. Mais parfois, tu peux faire du growth hacking, mais intelligent. C'est-à-dire que du growth hacking intelligent, c'est que tu vas. Moi, je le fais par exemple sur les réseaux. D'ailleurs, tiens, tu pourras voir sur mon profil. Mon profil, en fait, il est growth hacké. Comme je te le disais, Instagram, pour moi, c'est un réseau entre guillemets secondaire par rapport à mes deux priorités qui sont mon
LinkedIn.
blog et LinkedIn. Et donc, en fait, comme j'ai peu de temps et j'essaie d'être présent sur la plupart des réseaux, j'ai demandé à mon assistante, Sabrina, donc certes, comme tout le monde, d'aller planifier du contenu, mais ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, en fait, d'aller créer des citations. C'est-à-dire que je lui ai fourni un pool de citations. Je suis allé sur Wikipédia, je suis allé sur des sites de citations. J'ai pris mes articles de blog où j'ai pris des citations, des trucs intéressants que je voyais sur des salons et des choses comme ça. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui avait fait les 10 citations les plus inspirantes du salon stratégie client. Je dis, hey, est-ce que je peux te les piquer? Il m'a dit, oui, bah, bien sûr, tu peux les prendre. Et donc, j'ai dit à mon assistante Sabrina, tu prends ces citations. Et en fait, je lui ai dit, tu vas sur l'outil qui s'appelle Code Cover Maker, qui est un petit outil qui coûte 3 euros par mois à peu près. Et en fait, tu as juste à copier-coller les citations avec le texte. Tu as un générateur automatique d'images et ça te génère en fait une citation, hop, en automatique avec un font, enfin avec une fonte, une image de fond, etc. Tu peux faire des petits réglages si tu as envie d'optimiser et tu télécharges. Et j'ai dû lui faire faire comme ça, genre peut-être 500, 600 citations. Et en fait, hop, je lui dis, bah, tu me programmes ça tous les jours sur Twitter, tu me programmes ça sur Instagram, tu me programmes ça sur LinkedIn. Et en fait, ça me fait zéro boulot, à part la phase de sélection au départ. Et je lui ai fait copier ça. Alors là, je crois que je suis arrivé quasiment au bout de ces 500, 600, ou des fois, je mets des pauses, je lui dis, tiens, tu vas mettre les images des derniers articles, etc. Donc avec ça, en fait, tu vas vraiment pouvoir automatiser la tenue de ton compte. Après, ça, c'est de l'automatisation qui est un peu, je trouve, low cost, parce que les citations, c'est sincèrement, bon, c'est pas génial, c'est pas très, comment dire, c'est pas avec ça que tu vas avoir de l'engagement. Pour moi, c'est juste une présence. La citation permet d'avoir des trucs, mais sur Twitter, c'est assez apprécié. Tu vois, je l'ai pas fait pendant très longtemps sur Twitter d'avoir ces citations en automatique parce que je me disais, ouais, c'est pas très visuel, etc. Et mes résultats montrent en fait que Twitter, ils aiment bien, la plateforme aime bien que tu publies comme ça des contenus sans lien parce qu'il y a des interactions, il y a des likes, etc., etc. Instagram aime moyennement parce qu'il n'y a pas assez d'interactions, sauf sur certaines posts. Parce que là, tu postes un truc, c'est pas génial. Donc, ce que j'ai fait aussi, C'est qu'en fait, je suis passé par le site Fiverr.com. Donc Fiverr.com qui est un site offshore où tu peux faire appel à des freelances du monde entier. Et tout simplement, en fait, j'ai demandé à un graphiste étranger de me faire en fait des illustrations humoristiques de la relation client qui est mon domaine. Et donc, je crois, je suis arrivé à 80 ou 82 BD, ce que j'appelle ma BD de l'expérience client. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que quand il y a des clients, des prospects qui me disent, tiens, il y a ça, des conseils, des astuces, je reprends l'astuce, je mets dans un OneNote. Et en fait, une fois que j'en ai 4-5, je dis à mon illustrateur, tiens, voilà, tu vas me faire une image de tel truc en disant telle chose. Alors, comme c'est une plateforme internationale, tu dois le faire en anglais. Et ensuite, après, moi, je mets rapidement après en français le texte. Et comme ça me permet tout simplement d'avoir du contenu, mais pas du contenu un peu faiblard, comme les citations, mais du contenu un peu plus à valeur ajoutée. Voilà.
Et là, si on revient sur une notion que tu as dit précédemment sur le retour sur investissement, pour regarder ce qui ramène le plus, tu me disais, voilà, j'ai utilisé Pinterest qui m'a ramené beaucoup, qui ramenait du trafic vers Pinterest, mais ce trafic-là est resté là-bas et j'avais pas forcément le même retour. Ou sinon, la personne qui a publié sur LinkedIn une publication de Pâques et finalement, bah, on sait pas
T'as pas de
s'il a eu le
trafic.
retour sur investissement qu'il voulait. Et je voulais faire un parallèle un petit peu avec les Reels, par exemple ici. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont à la recherche du reel qui va aller avoir plus de 5 000, 200 000, 1 million de personnes qui voient le reel. Et moi, j'ai fait l'expérience d'avoir aussi des reels qui vont aller, entre guillemets, viraux, même si la notion de viralité, elle est vraiment très. Voilà. Elle est en fonction de ce que nous, on recherche. Et ce que j'ai remarqué, c'est pas forcément les reels qui vont aller le plus viraux en termes de vues, qui vont m'amener le plus des personnes finalement, des clients, des prospects ou des personnes qui vont m'écrire un DM. Donc, parfois même, je peux te dire qu'un reel qui va aller viral va m'amener plus de hate, donc plus de merde plus que autre. Alors que un autre, par exemple, qui ne va pas dépasser un certain palier, bah, en fait, ce sont les gens qui sont les plus engagés, qui sont les plus intéressés par rapport à ce que je fais et sont potentiellement les personnes qui vont aussi acheter le plus mes produits et mes services. Donc,
Alors, dis-moi un exemple. Alors, c'est quoi le reel qui a eu le plus de reach et celui
alors.
que tu trouves le plus sympa au niveau de termes de prospects, comme ça, en fait, tu vas pouvoir nous faire un petit peu rêver.
Alors, celui qui allait le plus viral, je pense que c'était à propos du fait que je disais, j'ai fait une blague en train de rigoler en disant, ah, le client qui me demande de faire 15 publications, 20 stories et deux ventes reels à 400 euros. Et du coup, moi, j'étais genre en mode lol. Et du coup, je me suis faite enflammer par beaucoup de personnes. Parce que, évidemment, quand on parle de l'argent, ça fait mal. Et de l'autre côté, beaucoup de personnes n'ont pas compris véritablement le message. Ils ont pensé, soi-disant, que j'étais la petite influenceuse. Donc, à m'insulter en mode, ah, t'as pas vu, t'as que 7 000 personnes qui te suivent, mais tu devrais être contente que les gens regardent tes reels. Donc, tu vois, des trucs comme ça. Et enfin. Je m'en fous, tu vois. De toute façon, je sais que ces personnes-là, ils ne vont pas venir acheter. Donc, ok, salut, au revoir. Mais après, tu vois, il y a d'autres reels où je donne, par exemple, quelques petites astuces ou un mini tutoriel, par exemple. Et les personnes, ils trouvent ça vraiment intéressant et ils disent, bah, ok, moi aussi, j'ai essayé de faire ça, j'ai pas réussi. Merci pour me donner cette astuce-là. Effectivement, ça m'aide. Je sais que tu as une formation, bah, comment ça se passe et tout, parce que j'aimerais aussi apprendre de ça, approfondir ce sujet. Donc, vraiment, le terme de viralité tel qu'on entend, et moi, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ce terme-là et avec les vanity metrics, comme on dit, c'est bah, justement, enfin, non, en fait, c'est pas si on va avoir plus de nombres, on va percer le plus. Et j'ai eu un DM. Un message super intéressant à un certain moment, c'était une personne qui me demandait, mais comment tu réussis à avoir de la crédibilité en tant que coach Instagram et coach business si tu as que 7 000 personnes qui te suivent? Je dis, mais en fait, attends un peu, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu connais le coach vocal de Rihanna? Non? Alors, bah, tu ne dis plus rien, du coup.
Ben
Enfin, je veux dire, c'est pas ça que je veux compter, c'est le, enfin, ce que je vais avoir sur mon compte en banque finalement. C'est le
bah
reste,
oui, c'est
je m'en fous.
voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, la North Star Metric, c'est
Ouais.
bien beau d'avoir des vues, etc. Et c'est entre guillemets, c'est pas si compliqué que ça de générer de la viralité. Souvent, tu fais un peu de polémique ou tu fais des choses un petit peu drôles, ou tu
Ouais.
peux même reprendre des vidéos ou des concepts, mais derrière, ça va pas forcément générer beaucoup de business.
Ouais. Donc, ouais. Faut regarder vraiment ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut arriver et quand est-ce qu'on veut arriver. Derrière ça, y mettre 3 actions qu'on va faire vraiment de manière presque religieuse, matin, midi et soir, et on va comme un petit nain au début. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais te poser comme autre question? Dans ton livre, tu parlais d'une méthode et tu l'as rapidement rappelée ici. C'est la méthode AARRR. Qu'est-ce que c'est et comment on l'applique quand on est au début de chemin ou comment on
Bon, en fait,
l'apprend,
c'est
entre guillemets?
En fait, c'est assez simple. La méthode AR, en fait, bon, c'est pas une méthode qui est hyper précise, mais qui a en fait l'intérêt de se dire que si tu fais toujours la même chose, tu obtiens toujours le même résultat. Et donc, le seul moyen, en fait, de pouvoir sortir de cette boucle infernale, c'est de prendre du recul et prendre de la hauteur et de sortir, en fait, de ton quotidien et d'analyser de manière vraiment cartésienne avec des chiffres et des indicateurs pour savoir où agir en priorité. Parce que quand tu es une petite structure ou même une grosse structure, en fait, tes moyens sont et tes ressources, en fait, sont limitées. Et donc, tu dois vraiment te concentrer sur ce qui va apporter l'impact maximum, l'effet maximum. Donc, tu commences par dire, OK, ben, je vais modéliser simplement mon cycle des ventes. Par exemple, toi, sur Instagram, tu pourrais dire, ben, voilà, je vais lister ici le nombre de personnes, enfin, le nombre de vues sur, que j'ai tous les mois sur sur mon compte. Toi, on est dans la partie acquisition. Nombre de vues, ensuite le nombre, par exemple, de followers, tu peux même le mettre, hein, tu peux mettre plusieurs indicateurs. Puis après, tu peux dire, ben, ce qui est un indicateur important, c'est le nombre de DM. Par exemple, tu me dis, tiens, c'est le nombre de DM qui est important, etc. Ensuite, juste derrière, donc c'est la partie acquisition. Ensuite, activation. Activation, c'est par exemple les gens qui te demandent après un devis. Tu peux dire, ben voilà, sur les, par exemple, 100 DM que je reçois, et ben, ou 100 appels, ça peut être des appels téléphoniques, hein, ce que tu veux, et ben, sur les 100, tu reçois à peu près 20 demandes de devis. Sur les 20 demandes de devis, après, tu as ta deuxième acquisition, activation et conversion. Conversion, c'est combien en fait tu vends en fait de prestations suite à ces 20 devis. Tu en vends peut-être 5. Et donc à ce moment-là, tu as un taux de conversion qui est de 25% à peu près. Et donc, enfin, donc en fait, tu divises là-dessus. Puis après, tu dis référol, c'est est-ce que tu as un programme de parrainage, par exemple? Tu peux avoir ça en disant, tiens, si vous avez suivi ma formation Instagram, si vous êtes client et que vous référez quelqu'un, vous avez le droit à un bonus ou peu importe. Et puis à la fin, tu as la partie revenu. Et la partie revenu, c'est ton chiffre d'affaires. Et là, te dire, bah, comment je fais pour vendre plus? Et en fait, tu as plusieurs options à faire ça pour vendre plus. Tu peux dire, bah, tiens, le plus simple, bien sûr, c'est d'augmenter les prix. Mais tu peux dire, tiens, je peux faire une formation premium. C'est-à-dire que là, j'ai ma formation actuelle et je vais vendre, par exemple, un coaching en one-to-one où je vais faire une analyse de profil, où je vais faire un accompagnement pendant une semaine, où on va se faire un stage intensif. Et tu dis, bah, tiens, voilà. Voilà tout ce que je fais actuellement avec mes revenus. Et là, bien sûr, tu mets tes revenus de tes formations, tes revenus de tes consultings ou autre chose. Et tu dis, ben voilà, finalement, j'ai ça. Et donc, tu finis en fait en entonnoir en disant, ben tiens, j'ai 100 DM, j'ai 20 devis, j'ai 5 devis signés. Après, en fait, j'ai un bouche à oreille avec un programme d'affiliation avec ma formation. Et après, derrière, en fait, j'ai un revenu de, je sais pas, dire 5 000 euros, 10 000 euros. Et donc, à ce moment-là, tu dis, ben, OK, d'accord, j'ai ça. Maintenant, tu dis, ben, où ça va mal? Et c'est là, en fait, tu choisis un code couleur très simple. Rouge, c'est que ça va très mal. Orange, c'est que c'est moyen. Et vert, c'est que ça va bien. Et là, en fait, tu vas dire, ben, finalement, j'ai sur 100 DM, en fait, j'ai, je sais pas, j'en sais rien, 1 000 vues. 1 000 vues, 100 DM, ah ouais, c'est pas mal. Donc là, ici, le ratio, il est bon entre les deux. Par contre, entre, par exemple, 100 DM et 20 devis effectués, Ça encore, ça va, c'est pas mal. 20% de hit ratio, c'est bien. Par contre, je ne sais pas, entre 20 devis et 5 signés, ou un signé, on va dire, 20 devis et un signé, ah, par contre, c'est pas mal, c'est un vingtième. Waouh, il y a quelque chose là-dessus. Après, tu regardes le référal, donc tout ce qui est affiliation, recommandation, bah, finalement, tu en as zéro, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ton business model. Et le revenu, finalement, tu dis, waouh, je me fais uniquement 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je dirais que. En rouge fond, rouge vif et en très gros, bah, je mettrai cette partie entre 20 devis et 5 devis et je mettrai après la partie chiffre d'affaires. Par contre, en vert et en orange, je mettrai les autres trucs en disant, non, les trucs, c'est bon. Donc, c'est ces deux trucs-là qui sont les plus importants. Et dans ces deux trucs-là les plus importants, le plus rouge du rouge, eh ben, c'est peut-être cette partie devis. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que le devis soit beaucoup plus efficace? Et à ce moment-là, tu peux dire, bah, peut-être qu'il faut que je fasse un appel téléphonique au lieu de faire un devis. Et je passe peut-être plus de temps avec la personne pour discuter avec elle sur ce qu'elle veut. Ou alors je fais des offres à tiroir. Ou alors je travaille un peu ma psychologie. Parce que parfois, tu as des gens qui sont des profils rouges, jaunes, verts en psychologie. Peut-être que c'est pas très bien. Ou alors tu enregistres une présentation que tu fais à un prospect et tu te réécoutes derrière. Tu dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai loupé un truc. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai pas assez d'écoute. Souvent, en fait, tu vois, moi, je suis un gros parleur. Et bah, tu as pu t'en rendre compte. Hein. Et en fait, je discute et je laisse pas la personne s'exprimer. Et parfois, en fait, on se rend compte, on se dit, ah, oh, putain, j'ai fait une super présentation. Comme là, ouais, j'ai fait une super interview, mais tu laisses pas parler l'autre. Elle n'a pas pu parler de son cas. Et des fois, tu dis, ah, elle repart frustrée. Et donc, parfois, tu dis, bah, tiens, je vais peut-être faire une enquête sur les non-acheteurs pour savoir pourquoi ils n'ont pas acheté. Et là, en fait, avec tout ça, tu vas te dire, bah, voilà, quelles vont être les actions qui vont me permettre, en fait, d'améliorer le mieux mon taux de conversion de devis. Donc, déjà, bah, j'ai peut-être envoyé un email ou je vais peut-être appeler les non-acheteurs pour savoir pourquoi ils n'ont pas acheté. Prix, argumentaire, pas eu confiance, je sais quoi. Et après, en fait, bah, je vais dire, quelles vont être les actions? Peut-être, ça va être écouter plus les gens. Peut-être ça va être faire une présentation PowerPoint avec le logo du client un peu plus personnalisé. Peut-être c'est des prestations options. Peut-être c'est revoir un peu la personnalité et adapter mon discours. C'est peut-être des petits trucs comme ça. Ou peut-être que y a des choses à faire. Et donc en fait, je vais lister toutes ces idées-là et je vais les noter avec une note de 1 à 10 à chaque fois, avec trois critères. On peut mettre plus, mais 3, c'est le plus simple, c'est la méthode ICE. C'est-à-dire quel va être l'impact sur mon business. Note de 1 à 10, gros impact ou pas, gros impact 10 ou petit impact 1. Ensuite, je vais tout simplement dire une note, bah, quel va être le coût, c'est-à-dire le coût du logiciel ou de l'outil, mais également le coût humain, le temps que je mette en place. Et dernier point, c'est tout ce qui est envie et effort. Est-ce que ça va me motiver? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et avec ça, on fait une note sur 30 et on se dit, bah, je prends celui qui a le plus de nombres. Et tu choisis en fait deux choses, une quick win, qui est en fait quelque chose qui est super rapide à mettre en place et qui tu vas mettre en place tout de suite, ou alors tu vas mettre quelque chose qui est un peu plus long, mais qui va donner des efforts dans le long terme. Et donc, tu choisis ces deux choses-là et tu les mets en place et puis tu regardes après, une semaine plus tard, ce que ça donnait comme résultat et tu dis, ah ouais, ça vaut le coup, je continue là-dessus, je change ou j'améliore les choses. Voilà, tout simplement.
C'est super intéressant. Je vais me noter tout ça. Merci
Bah,
beaucoup. Je sais
c'est
que
dans le bouquin.
ça. Ouais. Bah, je suis pas
On a
arrivée à tout
encore
capter
5-6
là
minutes si tu veux. On a encore 5-6 minutes si tu veux.
Ouais.
Mais dans le bouquin, oui, aussi, tu verras, j'ai essayé de travailler aussi ce que j'appelle l'effet waouh. Bon, tu me parlais tout à l'heure que quand une entreprise, en fait, ce qui est important, en fait, c'est de lancer sa boîte. Et au départ, en fait, c'est super important d'écouter ses clients et de chercher l'effet waouh pour avoir le bouche à oreille, essayer d'avoir des témoignages clients. Et donc, il faut te dire comment je peux créer une expérience client. Peut-être pas exceptionnelle, mais au moins différenciante, au moins la meilleure possible. Et donc, pour mon bouquin, moi, justement, j'ai travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai sorti mon bouquin, la première version, ben, quand les gens voulaient une version dédicacée, ben, je prenais une enveloppe de papier-kraft, j'écrivais une petite bafouille, je mettais le bouquin dans l'enveloppe et hop, roule ma poule. Et c'est vrai que je me suis dit, Fred, putain, faut que tu travailles l'expérience client parce que la personne reçoit le bouquin dans une enveloppe Kraft en plus qui est un peu pliée parce que j'avais une enveloppe A4 et puis le bouquin il faisait du A5 donc c'était pas très beau. Et je me dis, Fred, travaille les points d'interaction. Donc j'ai commencé par aller chercher une enveloppe mal classée dorée. Et là tout de suite, je me disais, le point du parcours
Magnifique.
client, quand la personne elle reçoit son enveloppe, elle regarde dans sa boîte aux lettres ou le facteur qui lui remet, il dit, mais c'est quoi ce truc-là? T'as reçu un cadeau? Et là, la
C'est
personne est un peu
vrai.
fière, elle dit, ah ouais, c'est un bouquin, tout ça. Et là, tu dis, waouh, c'est quoi ce truc-là, etc. Ensuite, tu ouvres le
J'avoue,
truc, le bouquin.
t'as marqué un point avec ça quand tu m'as envoyé ton livre.
Ouais.
Bah justement, j'étais en vacances, donc j'ai reçu une photo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être? J'ai rien commandé. Et justement, après, j'ai fait, mais ah, mais peut-être c'est ça, justement. Et franchement,
Ben oui.
l'expérience cliente, et après, quand je l'ai ouvert et je trouvais à l'intérieur ce que j'ai trouvé, je
Ben
trouvais
oui,
que ça
alors justement,
comptait
là,
pour
là
la
c'était une
suite.
étape.
Ouais,
C'était pas si simple que ça,
c'est.
parce qu'après, je me suis dit, l'effet waouh, c'est quand tu ressens le truc dans ton parcours client. Ensuite, tu sors le bouquin. Je dis, voilà, tiens, tu sors le bouquin. Et c'est vrai que je le mets dans le bon sens et tout ça. Bon, il est un peu serré généralement, mais les gens arrivent à l'enlever. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui est important? Il y a cette fameuse dédicace. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, moi, ce que j'aimais bien, quand il y a des dédicaces de livres, j'aime bien les gens qui font des petits dessins, des petites caricatures. Sauf que moi, je ne sais pas dessiner. Donc en fait, je me suis dit, bah, je vais prendre les gommettes de ma fille de 4 ans et je vais mettre des gommettes et des choses comme ça. Donc je mets des petites gommettes personnalisées sur le truc. Et puis là, je me dis, ah ouais, ça fait un peu plus joli déjà, il y a un petit dessin et voilà, donc il y a le nom, prénom de la personne. Puis après, je me dis, Fred, qu'est-ce que toi, t'aimerais bien avoir? Bah, j'aimerais bien, en fait, j'ai acheté en fait un tableau avec une blogueuse qui s'appelle Amélie. Et en fait, c'est vrai qu'elle, quand j'avais acheté un tableau chez elle, elle m'avait mis une petite enveloppe avec un petit mot et tout ça. J'ai trouvé ça super sympa parce qu'elle avait peint le truc. Je lui ai dit, mais Fred, ce que tu devrais faire, c'est écrire un petit mot personnalisé pour la personne avec un conseil. Et au début, j'ai commencé à écrire trois conseils. Et c'était long parce qu'il fallait trouver trois conseils et tout ça. C'était compliqué. Et puis j'avais en plus pris un gros bout de papier qui était long. Et donc, je ne pouvais pas faire un truc très court. Alors, il fallait que j'écrive très gros. Je me dis, bah non, je vais prendre un truc plus petit. Donc, maintenant, tu as un petit format comme ça qui fait une demi à 5. Et en fait, je mets des autocollants pour que ça ne prenne pas trop de place non plus et que ça fasse toujours gros sacking. Et j'écris, j'essaye de trouver un. Soit si je connais la personne, j'essaye de créer un truc un peu complet. Soit en fait, je fais un truc un peu générique sur le gros sacking en général. Et donc, c'est un petit truc personnalisé. Et puis après, donc voilà, je me suis dit, bon, là, c'est pas mal. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec un de mes amis qui travaille dans l'expérience client qui m'a dit, ah, Fred, c'est bien. Ouais, tu as la partie écriture, tu as la partie ouverture, tu as le machin, mais tu as un moment du parcours client, tu n'as pas pensé. Je dis, bah, lequel? Quand la personne, elle finit de lire le livre, je dis, ah oh, putain, ouais, c'est important ça. Et donc, il m'a dit, ouais, tu devrais écrire un petit mot à la fin. Et c'est vrai que quand tu ouvres la dernière page du bouquin, j'ai écrit un petit
Oui.
mot à la main en disant, hey, bravo d'avoir écrit le bouquin. Alors, quand les gens ont acheté le bouquin, un truc comme ça, bah, genre, fais un témoignage sur Amazon et avec ça, je t'offrirai un petit cadeau, un petit machin. Et donc, en fait, ça me permet d'avoir du référent en plus. Donc, voilà, il faut travailler cette expérience client et se dire, waouh, comment je peux créer un effet waouh.
Ouais, mais t'as vraiment marqué le coup avec ça. Et je t'avoue, moi je conseille vraiment toute personne ici d'aller voir ton livre, de l'acheter, de le lire parce que moi j'ai commencé, j'avoue, je suis plus ou moins à moitié. Et je t'assure que je vais le finir
Alors
aussi.
justement, est-ce que tu as pensé à un effet waouh pour tes produits, ta formation? Est-ce que tu as commencé à réfléchir à ton parcours client?
Ouais, justement, je
Alors c'est
suis
la
en, je
dernière
suis
cha
en
c'est le
plein.
dernier chapitre du bouquin, hein donc tu n'es pas
Je
encore arrivé.
suis en plein dedans là. Je suis en train de restructurer mes offres parce que jusqu'à maintenant, pour te faire vraiment rapidement, jusqu'à maintenant, j'étais en freelance et en même temps, je travaillais presque à temps plein en salariat. Et depuis très peu de temps, je suis à 100% dans le freelancing. Et du coup, je prends le temps pour restructurer mes offres, pour créer vraiment, vraiment, j'ai envie de créer une offre dont je suis fière et dans laquelle l'expérience client, pardon, est au top.
Et
Donc, je
top.
pense que ton livre, il va aussi me donner quelques petits hacks par rapport à ça
Ah
et
oui, bah,
stratégie
y en
aussi.
a un ou deux pas mal. Essaye la méthode du message vocal. Le message vocal, alors ceux qui ont reçu le message vocal d'Éric Zemmour savent ce que c'est, mais en fait, le message vocal, c'est la petite appel de bienvenue. Moi, je le vante depuis des années. Il y a Emmanuel Macron qui l'avait aussi fait, je crois, avant les élections il y a quelques temps. Je crois qu'il y avait aussi Anne Hidalgo, je sais pas quoi. Et en fait, c'est tu enregistres un message vocal. Et en fait, c'est envoyé et déposé sur le répondeur de la personne. Et donc, dès qu'elle a acheté, hop, elle reçoit. Enfin, tu peux envoyer un message comme ça en lot, en disant, ouais, bonjour, c'est Corinna. J'espère que merci de t'être inscrit à ma formation. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas, tu peux envoyer des questions et rejoindre le groupe Instagram, bla 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 bla. Et en fait, dans l'e-commerce, ça se fait quand même pas mal. Et ça permet généralement d'avoir beaucoup plus d'avis clients et d'avoir des recommandes, enfin des clients qui commandent à nouveau de manière beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est il y a plein d'astuces comme ça où envoyer quelque chose de papier. Enfin bref, le tout, c'est de travailler sur son effet waouh.
Ça ne part pas dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, merci beaucoup encore. On est 59. J'ai respecté le
Le
timing.
timing.
Exactement. Voilà. Merci encore une fois. Ça a été vraiment super. Tu as apporté énormément de valeur. Merci encore une fois d'avoir accepté. On se parle
On
dans
se
les DM.
continue de se voir sur Instagram.
Exactement.
Et je
Exactement.
continue de regarder tes reels et
Merci.
regarder toutes les vidéos. Parce que je trouve que c'est très sympa et c'est vraiment rafraîchissant. Et je trouve que ça montre en fait, toi, qu'il faut mettre sa personnalité et il faut faire des choses vraiment qui sont en phase avec ce qu'on aime.
Merci, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir venant de toi. Merci beaucoup et je te souhaite voilà une excellente soirée. Et tout le
Bah,
monde,
toi aussi.
allez follow Fred sur
Ah bon.
LinkedIn ou ici. Je pense que sur LinkedIn, il y aura vraiment beaucoup de plus de ta
Alors, je
présence.
suis un peu plus, oui, mais c'est vrai que c'est parce que sur Instagram, le B2B est quand même beaucoup moins présent.
Ouais.
Mais ça reste quand même un super. Toi, je ne peux pas ne pas être sur Instagram. Et toi,
Ouais.
c'est comme je disais, je suis en canot défensif sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, etc. Et tu vois, dès qu'en fait, le gros hacking, c'est ça, c'est se dire où tu as un gisement de croissance, tu dois absolument y être. Voilà.
Ouais, je vois. Donc, allez, follow Fred et merci encore une fois. Et on se tient au courant dans les DM. Allez.
On continue de se suivre.
Yes. Ciao, ciao.
Bye bye.